Je voudrais qu'on puisse lire un passage dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 12 et le verset 38. Matthieu, chapitre 12, verset 38, c'est une parole de Jésus donnée dans une certaine circonstance et qui rappelle une histoire de l'Ancien Testament. Donc, par la suite, on lira cette histoire pour voir quelle est la comparaison que Jésus fait avec la parole qu'il donne. Matthieu chapitre 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Et je voudrais qu'on puisse maintenant lire, justement, dans Jonas, quelques versets qui vont nous rappeler cette histoire. Je crois que vous la connaissez bien, mais c'est tellement bon de relire ensemble ce que nous dit la parole de Dieu. Jonas, chapitre 1er et verset 1er. Jonas, chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots : Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre : Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit : Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent : Pourquoi as-tu fait cela ? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent : Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit : Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent pas parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande frayeur, d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Et au chapitre 2, il est dit : L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. On sait par la suite ce qui est arrivé, c'est que le poisson, au bout de 3 jours et 3 nuits, il a recraché Jonas. Et si vous lisez le chapitre 3, vous voyez que Jonas, il a pu finalement accomplir ce que le Seigneur lui demandait au début. Mais il a fallu toute une péripétie pour que ça en arrive là. En tout cas, Jésus, il répond à une question de ces scribes et de ces pharisiens qui sont là et qui lui posent cette question toute simple : Nous voudrions te faire voir un miracle. Et en apparence, cette question, vous êtes d'accord, elle a l'air bien, polie, tout ce qu'il faut dans la forme. Mais quand on regarde le contexte, on se rend compte que Jésus vient de faire un miracle devant leurs yeux. Jésus, il vient d'accomplir quelque chose d'incroyable. Une personne qui était possédée et que le démon empêchait de parler et de voir vient d'être délivrée. Mais parce que c'était des gens qui avaient le cœur fermé, ils n'ont pas voulu saisir la grâce de Dieu, ils n'ont pas voulu comprendre que c'était Dieu qui était en train d'intervenir, ils n'ont pas reconnu la main de Dieu dans ce miracle. Et ils ont accusé Jésus de travailler pour le diable, alors qu'il est en train de délivrer une personne. Et c'est dans ce contexte que Jésus leur dit cette parole, qui moi m'interpelle quand même. Alors qu'ils sont en train de demander un miracle, Jésus leur dit, le seul miracle dont vous avez besoin, je paraphrase, hein, le seul miracle dont vous avez besoin, c'est le miracle de Jonas. Et combien, je crois que ce soir, le Seigneur voudrait qu'on comprenne ce qu'il a voulu dire par cette parole. Moi, je crois que Jésus savait très bien ce qu'il disait quand il leur a dit ça. Le miracle dont vous avez besoin, c'est le miracle de Jonas. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien ce qu'ils avaient au fond du cœur. Il savait quelle personne avait assisté au miracle, mais surtout, il savait ce qu'il trouvait dans le cœur de l'homme, parce que Jésus a cette capacité de voir ce qui se trouve dans notre cœur. Et voilà pourquoi, quand il dit une parole, on peut lui faire confiance qu'il ne se trompe pas. On peut lui faire confiance qu'il sait où il va. Et quand il nous dit de regarder à l'exemple de Jonas, je crois qu'il y a une vérité spirituelle qu'on doit en retirer ce soir encore. En tout cas, ces hommes, peut-être ne l'ont pas reçu, peut-être certains d'entre eux l'ont reçu, mais ceux qui ont accepté de recevoir cette parole et qui ont laissé cette parole transformer leur vie, ils ont pu saisir la grâce de Dieu tout simplement, parce que quand Jésus parle, sa parole s'accomplit véritablement. Et à la fin de cette parole, de ce qu'il disait, Jésus a dit, il a dit en quelque sorte, qu'il était plus grand que Jonas. Et au travers de l'histoire de Jonas, je voudrais qu'on voit ce qu'il ressort de Jonas et ce qui ressort surtout de Jésus au travers de cette histoire. L'histoire de Jonas, ça nous parle, d'après les mots de Jésus, ça nous parle de l'image même de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Et en comparant ce que Jonas a fait, on va pouvoir comparer ce que Jésus a fait pour nous de façon bien plus incroyable. Mais avant de rentrer véritablement dans cette comparaison, je voudrais qu'on puisse surtout réfléchir et se demander, est-ce que c'est plausible l'histoire de Jonas ? Parce que souvent, on entend des gens qui disent « Ah, mais c'est pas possible, un poisson qui avale un homme qui reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, mais c'est pas possible. » Voilà pourquoi Jésus dit que c'est un miracle, on est d'accord. Mais un jour, il y avait un garçon, justement, qui vient voir son papa et qui dit « Papa, il faut que je te parle, j'ai quelque chose à te demander, parce que j'ai du mal à comprendre, à croire l'histoire de Jonas. J'ai du mal à comprendre comment un poisson il a pu avaler un homme, comment il a pu passer dans l'estomac et rester pendant 3 jours et 3 nuits au fond de l'océan, et puis être toujours vivant. » Et cet homme, il dit, c'est bien mon fils, viens, on va en discuter un peu plus. Alors, vas-y, explique-moi ton problème véritablement. Ben oui, mais comment scientifiquement un poisson a pu avaler cet homme ? Comment il a passé dans la trachée et puis arrivé jusqu'à l'estomac ? Comment c'est possible qu'il soit resté là ? Alors, comment il a pu respirer ? Comment il a pu supporter la chaleur ? Etc., etc. Et le papa, il dit, tu vois, mon fils, moi aussi j'avais ce problème de l'histoire de Jonas. Mais c'était plus profond que ça. Mon problème à moi, c'était de savoir comment Dieu avait pu créer un poisson ? Comment Dieu avait pu créer un homme déjà ? Et si on considère que les premiers versets de la Bible, le premier verset de la Bible nous dit « Dieu a créé la terre et le ciel », et si on a la foi dans ce premier verset, ben, tout le reste c'est qu'un des détails techniques. Mais si Dieu a la capacité de créer l'homme et de créer le poisson, alors le fait qu'un homme reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, c'est qu'un détail technique. Vous êtes d'accord ? Et c'est le miracle de la grâce, c'est le miracle de la puissance de Dieu. Et le simple fait de mettre notre foi dans ce verset, oui, Dieu a créé le monde, et je veux y croire, eh bien, je veux croire aussi que cette histoire est vraie, qu'elle veut m'apporter quelque chose. En tout cas, on voit quelque chose dans la vie de Jonas, c'est que quand on fuit Dieu, et quand on ne fait pas la volonté de Dieu, il y a des conséquences à notre péché. Quand on s'éloigne de Dieu, il y a des conséquences. La première d'entre elles, elle est évidente, c'est que l'approbation de Dieu, elle s'en va. Vous voyez que, quand même, on l'a lu ensemble, Dieu, qui est le créateur de la terre et du ciel, Jonas il l'a même déclaré, Dieu il s'adresse à un homme. Et il lui donne cette mission. Dieu, il a fait confiance à un homme pour pouvoir accomplir une mission. Dieu voulait agir par l'intermédiaire de Jonas. Et je pense que c'est là quand même une marque d'approbation particulière. Sauf que dans la façon dont réagit Jonas, on se rend compte que d'après les choses qu'il fait, il va attirer la désapprobation de Dieu. Dieu va perdre sa confiance dans cet homme, tout simplement, parce qu'alors qu'il lui demande quelque chose, cet homme, il fait le contraire. Et ce qu'on ne réalise pas toujours quand on désobéit au Seigneur, c'est que c'est lui le premier touché. Souvent, nous, on pense à nous, on pense à nos conséquences, les conséquences pour nous, ce que ça attire. Un homme qui va voler une orange dans un supermarché, je prends un exemple tout simple, il va penser aux conséquences s'il se fait attraper, qu'il va aller en prison. Mais la première personne qui est touchée par le péché, c'est Dieu. La première personne qui est intéressée quand on pêche, quand on lui désobéit, c'est Dieu. Parce que son cœur est blessé. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous péchions. Dieu nous a créés pour qu'on soit en communion avec lui. Et le péché nous éloigne de cette communion. Voilà pourquoi Jésus, quand il voit ces personnes qui s'approchent de lui, ces hommes religieux, et qui lui disent « Montre-nous un miracle, fais un miracle pour qu'on croie en toi. » Jésus leur dit « Génération méchante et adultère. » Et je trouve que c'est des mots forts, mais c'est véritablement ce que le Seigneur pense. Quand on pêche, il a la même impression que quand une femme trompe son mari ou quand un mari trompe sa femme, il y a autant de joie que ça procure. Et vous savez que ça ne procure pas du tout de la joie, c'est totalement l'inverse. Il y a une tristesse, une perte de confiance, il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Et c'est véritablement ce que Dieu ressent. Dieu nous donne cette image que quand nous pêchons, c'est comme si nous étions adultères de point de vue spirituel. Et le miracle dont nous avons besoin, c'est de croire que Jésus, lui, il est venu pour accomplir la mission. Jonas, on lui a donné une mission et il a fui de l'autre côté. Et vous savez que la mission, c'était pas rien quand même. Parce que sa mission, c'était de faire un voyage de plus de un mois au travers du désert, et un désert dangereux avec les bandits et les bêtes sauvages, tout ce que vous voulez, pour aller prêcher à des personnes qu'il haïssait profondément, parce qu'ils étaient les ennemis de son peuple. C'était ça sa mission. Et on peut comprendre un peu pourquoi il a résisté. Mais Jésus, lui, il avait une mission bien plus belle et bien plus difficile. C'était de quitter sa gloire, quitter son royaume céleste pour venir devenir un homme sur la terre et pour apporter la joie, la paix, le bonheur à des hommes qui le haïssaient, à des hommes qui allaient plus tard le crucifier, et de leur apporter surtout le moyen d'entrer au ciel. Ça, c'était la mission du Seigneur. Et si Jonas, lui, dans un premier temps, il a failli à sa mission, Jésus, lui, il est allé jusqu'au bout de sa mission. Et il nous permet maintenant, à nous qui avons la désapprobation de Dieu parce que nous sommes des pécheurs, il nous permet d'obtenir à nouveau cette approbation, simplement en demandant pardon pour nos péchés. Est-ce que vous pouvez dire ce soir, est-ce que je peux dire ce soir que j'ai l'approbation de Dieu sur ma vie ? Je crois que dans cette salle, il y a des hommes et des femmes qui peuvent dire « Oui, je suis approuvé de Dieu ». Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Eh bien, simplement, en demandant pardon, en réglant l'histoire du péché dans notre vie, eh bien, on peut obtenir tout de suite cette approbation de Dieu, simplement en faisant ce que le Seigneur nous donne. Et la conséquence immédiate pour Jonas, la conséquence immédiate de cette désapprobation, de faire totalement le contraire de ce que Dieu demande, c'est qu'il a perdu sa paix intérieure. On voit dans cette histoire un Jonas qui n'est pas serein et qui tente d'oublier comme il peut tout ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je crois que dans le cœur de Jonas, même au début de la tempête, quand il voit les nuages arriver, qu'il voit les vagues se passer, c'est pas pour rien qu'il va aller dormir, parce qu'il se sent accusé dans sa conscience. Et Dieu a fait un cadeau aux hommes, il a fait le cadeau de la conscience. Et cette conscience, elle est là, et Dieu parle au travers de notre conscience. Et cette conscience nous permet de savoir justement si nous sommes en paix avec Dieu. Elle nous permet de savoir si nous sommes dans sa volonté, si justement nous sommes approuvés de lui. Je crois que Jonas, pendant tout ce temps, il était continuellement accusé dans sa conscience, accusé. Et il y a les pensées qui revenaient, Dieu m'a dit de faire ça, mais moi je veux aller ailleurs. Et il y a toutes sortes d'excuses qui remontent, toutes sortes de raisonnements qui remontent. Oui, tu as vu combien les Ninivites, ils ont fait du mal, peut-être à ma famille, peut-être à telle personne que je connais, combien ils ont été méchants envers lui, ils lui ont volé, toutes sortes de raisons qui ont pu monter. Et moi je devrais aller prêcher à ces personnes pour qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés. Ah non, Je préfère m'enfuir, je préfère m'en aller. Et souvent, quand on résiste, on sort toutes sortes d'excuses comme ça, toutes sortes d'excuses qui, quand on y réfléchit, elles ne font pas le poids. Elles ne font pas le poids devant l'amour de Dieu. C'est des excuses humaines, mais devant l'amour divin, qu'est-ce qui peut faire le poids? Devant la grâce divine, devant la puissance de la grâce de Dieu qui veut se manifester dans les vies. Parce que oui, quand même, c'était un message difficile à entendre. Il devait aller dire aux gens que la méchanceté était montée jusqu'au ciel. Mais c'était dans le but que ces personnes se ressaisissent et reviennent à Dieu. C'était dans le but de la grâce. Jonas, il a laissé ses sentiments intérieurs prendre le dessus et il a laissé ses sentiments lui dicter sa conduite. Et le résultat, c'est qu'il a perdu la paix. Jésus, il n'a pas laissé ses sentiments, il n'a pas laissé toutes sortes d'émotions dicter sa conduite, il a laissé la grâce et l'amour de Dieu lui dicter sa conduite. Et de ce fait, il est venu sur la terre, il est venu se donner pour tous les hommes, et il est venu nous réconcilier avec Dieu. Si nous croyons en Jésus, si nous confessons notre péché, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Nous pouvons trouver la paix en Dieu. Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Mais Jésus, quand il nous donne le repos, il le fait tellement bien. Il y a des versets qui nous parlent qu'il purifie notre conscience. Si notre conscience est accusée de toutes sortes de maux, je ne sais pas comment, dans quel état est votre conscience. Ce que je sais, c'est que si on est pécheur, devant Dieu, notre conscience, elle est mauvaise. Et on a besoin que cette conscience soit purifiée. Et on a besoin que notre cœur tout entier soit purifié. Et cela n'est possible que en laissant le sang de Jésus purifier notre conscience des œuvres mortes. Troisième chose qui s'est passée pour Jonas, je crois qu'il a vécu la pire aventure de sa vie. Je crois que de toute sa vie, c'était la pire chose qui pouvait lui arriver. Et il y a des tempêtes qui sont la volonté de Dieu, oui, des épreuves dans notre vie qui sont la volonté de Dieu, mais celle-là, ce n'était pas la volonté de Dieu au départ. Si Jonas, il avait accompli ce que Dieu lui demandait dès le début, il n'y aurait pas eu de tempête, vous êtes d'accord? Parce que la tempête, elle n'a servi qu'à une chose, à ce que Jonas, il se repente, et ce que Jonas, il puisse finalement aller accomplir sa mission, comme on le voit au chapitre 3. Puisqu'il entend la même parole de l'Éternel, et finalement, au lieu de courir dans l'autre côté, il va à Ninive, et Dieu fait grâce aux Ninivites. Mais, quand on désobéit, il y a du prix à toutes ces choses. Et moi, je remarque quelque chose, toutes les choses qu'il a perdues, je remarque tout ce qu'il a pu perdre en désobéissant. Il a perdu de l'argent, parce qu'il a dû payer le prix pour prendre le transport. Il a perdu du temps. Parce qu'il a quand même resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, sans compter tous les déplacements pour aller au navire, etc. Il a perdu ses forces parce qu'il était à bout d'épuisement, en train de se noyer, et à un moment donné, il était tellement mal. Je crois même qu'il a perdu la santé, parce que 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, je ne suis pas sûr que c'est recommandé par les médecins. Est-ce que vous le recommandez? Passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, est-ce que ça fait du bien à la santé? On est sûr que non. Je crois qu'il a perdu beaucoup de choses. Et toutes ces choses, ça a mené à quoi? Ça a mené à rien de plus qu'au premier chapitre. Ça, il a tourné en rond, finalement. Et des fois, on a dans notre vie des tempêtes qui arrivent, des choses difficiles, incroyables, qu'on n'arrive pas à surmonter. Et on a l'impression continuellement de tourner en rond. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Il y a toutes sortes de sacrifices qu'on fait et il n'y a rien qui prend place. Tout simplement parce que la tempête, c'est la conséquence de notre péché. La conséquence de notre désobéissance. Et tant qu'on ne règle pas ce problème-là du péché, eh bien, la tempête, elle va continuer et on va perdre de plus en plus de choses. Et Jonas, il a failli perdre la vie. Certains commentateurs disent que même il aurait perdu la vie, il serait ressuscité. En tout cas, moi je crois qu'il a perdu beaucoup et qu'il a fallu qu'il arrive jusque-là pour qu'il se rende compte qu'il faisait une erreur en fuyant Dieu. La meilleure chose qu'on puisse faire sur la terre, c'est pas de fuir Dieu, c'est de venir dans la présence de Dieu. Le meilleur endroit où il faut être sur la terre, ce n'est pas un endroit physique, c'est surtout d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la communion avec Dieu, d'être dans la volonté de Dieu. Est-ce que ce soir, vous voulez être dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce soir, vous désirez que Dieu manifeste son approbation, mette sa paix dans votre cœur? Alors, réglez l'affaire du péché. tout simplement. Demandez pardon si vous êtes pécheur. Et si Dieu vous demande de faire certaines choses, mais faites-les, obéissez au Seigneur, parce que celui qui obéit, il peut après être utilisé par le Seigneur. En tout cas, ça c'est ce qui est arrivé à Jonas. Et pour nous, on sait qu'aujourd'hui encore, quand on voit notre monde, on sait qu'on peut être confronté à toutes sortes de tempêtes qui sont le fruit de notre péché. On peut avoir des tempêtes financières parce qu'on a fait des erreurs dans notre gestion de l'argent. On a fait des crédits et surcrédits et on peut avoir toutes sortes de problèmes financiers. On peut avoir des tempêtes relationnelles parce qu'on a laissé nos sentiments dominer. On a voulu s'exprimer, montrer qu'on a toujours raison ou on reste sur nos positions. Et du coup, on est tombé dans des affrontements avec les membres de notre famille. On peut avoir toutes sortes de tempêtes, des tempêtes physiques, une maladie parce que on a eu un comportement mauvais pendant plusieurs années qui fait qu'on est malade par la suite. Il y a toutes sortes de tempêtes qui peuvent se passer. Mais comme Jonas a été libéré et délivré de la tempête, quand il a commencé à prendre conscience de son erreur, il a dit « c'est ma faute, c'est ma faute ». Vous avez remarqué à quel moment la paix est revenue? C'est au moment où Jonas a été jeté dans la mer. Il a reconnu son péché. C'est de ma faute. C'est moi qui attire sur vous ce malheur. Eh bien, je veux demander pardon au Seigneur. Et quand on lit la prière, je vous laisse le faire, la prière du chapitre 2, qu'il a faite dans le ventre du poisson, ce n'était pas le meilleur endroit au monde, mais c'était la plus belle prière qu'il aurait pu faire de toute sa vie, je pense. Et en tout cas, il a été exaucé parce qu'il a été délivré. Et le Seigneur a pu accomplir son œuvre au travers de lui. Est-ce que vous êtes dans la tempête ce soir? Peut-être que vous l'êtes. Peut-être que vous êtes dans une tempête. Alors, moi je vous dis, ce soir, confiez-vous en Jésus. Parce que si Jonas, lui, il a connu une tempête, et il a fallu qu'il soit jeté par-dessus bord pour que la tempête se calme, alors bien sûr, les passagers du navire, ils étaient sauvés, mais lui, il était pas bien. Il était dans la mer. Mais Jésus, lui, il a connu une tempête qui n'était pas le fruit de la désobéissance. Il a connu la tempête qui découlait de son obéissance. Et la pire tempête qu'un homme puisse vivre sur la terre. Il a été haï, il a été rejeté par les siens, par tous ceux même de sa famille. Il a été torturé, il a été frappé de coups, il a été couronné d'épines. Et des épines, quand on regarde ce qui a été utilisé pour le couronner d'épines, on se rend compte que c'est des choses incroyables. Est-ce que vous avez déjà été piqué par une petite épine de rose? Est-ce que ça fait mal? Si ça reste dans la peau? Alors est-ce qu'on peut imaginer un instant qu'on nous mette sur la tête une couronne d'épines et que ces épines-là rentrent dans la chair comme ça? Et ça, c'est une des choses de toutes les douleurs que le Seigneur a accomplies et qu'il a fait volontairement. Il a fait parce qu'il savait que ça allait nous rapprocher de lui. Il savait surtout qu'en accomplissant ces choses, en faisant la volonté de Dieu, en obéissant jusqu'à la mort, il allait pouvoir nous délivrer, nous, de toutes les tempêtes que nous pourrions vivre. Il a accepté de vivre cette tempête incroyable, de porter sur lui notre péché à chacun, afin que nous puissions être totalement délivrés de ce péché-là. Et je crois que c'est quelque chose de magnifique. Et je crois que la seule personne dans ce monde qui peut dire et prononcer ces paroles, « Je peux te délivrer de la tempête », je crois qu'il n'y a que le Seigneur Jésus. Et je pense à ce psaume 107, qui nous dit un simple verset, psaume 107, verset 13, il est dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il rompit leurs liens et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Ça, c'est ce que le Seigneur veut accomplir pour chacun d'entre nous. Il veut nous délivrer de la situation qui nous angoisse, de ce qui nous tient tellement qu'on est dans la confusion, dans le trouble. Le Seigneur veut nous délivrer de cela. La seule chose qu'on a à faire, c'est se nous confier dans celui qui a affronté la pire tempête pour que nous soyons, nous, dans le calme et le repos. Et je voudrais terminer avec cette quatrième chose que Jonas a vécue. Cette quatrième chose, on remarque que quand Jonas est dans le bateau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est allé dormir au moment de la tempête. La tempête commençait, il est allé dormir. Et ça nous parle à nous que quand on est plongé dans l'épreuve, quand on est plongé dans le péché, Et dans l'épreuve qui résulte du péché, souvent on a la perte de la perception spirituelle. On ne se rend plus compte des réalités spirituelles. Et les hommes qui sont autour de nous et qui ne veulent pas de Dieu ne se rendent pas compte qu'ils sont loin de lui, la plupart. Ils n'en veulent pas de Dieu. Pour eux, il n'existe pas. Et Jonas, alors qu'il fermait les yeux et qu'il commençait à dormir profondément, c'est rajouté, Jonas, il était insensible au danger qu'il rencontre. Il était insensible au danger que les autres rencontrent. Il était aussi insensible à la voix de Dieu. Quand on dort, c'est exactement tout ça qui se passe. Et beaucoup d'hommes, malheureusement, sont dans ce sommeil spirituel, sont dans cet état de cœur qui fait qu'ils ne peuvent pas se rendre compte du danger dans lequel ils sont. Par contre, Jésus, jusqu'à la fin et jusqu'à aujourd'hui même, il a une claire vision de ce qui se passe dans les lieux spirituels. Et quand il nous regarde, il sait si nous sommes en règle avec lui ou si nous sommes en danger parce que nous marchons vers l'enfer. Quand il nous le regarde, il le sait. Voilà pourquoi il intercède en faveur de chacun, pour que nous puissions revenir à lui si nous sommes loin de lui, ou pour que nous puissions rester dans sa présence si nous sommes déjà au Seigneur. Jésus, il connaît parfaitement notre cœur, il sait parfaitement ce dont nous avons besoin. Jésus aussi, il n'est pas insensible à notre malheur. Il n'est pas insensible à tout ce que nous pouvons traverser sur cette terre. Et si nous sommes dans la difficulté, si nous connaissons une dépression, si nous connaissons une rupture familiale, Jésus n'est pas indifférent. Et combien il voudrait intervenir. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'ouvrir notre cœur et de dire « Seigneur, viens en moi, viens faire ton œuvre en moi ». Et pour illustrer cet état de cœur, c'est ce que nous devons faire face à Jésus. Il y a cette histoire d'un capitaine d'un grand bateau. Et alors qu'il est là à son poste, en train d'examiner la nuit sombre, il est en train de voir dans quelle direction le bateau s'en va, il aperçoit une petite lumière devant. Et il croit discerner un navire qui est là, une toute petite lumière qui brille. Et alors il dit à son marin qui est à la radio, envoyez un message à ces personnes. Voici le message. Changez votre course de 10 degrés sud. Ça veut dire écartez-vous. Et puis le marin qui est au poste radio, il reçoit un message. Capitaine, regardez ce qu'il est dit. Changez votre course, vous, de 10 degrés nord. L'inverse. Alors le capitaine n'est pas content, il dit « mais il se moque de moi celui-là ». Changez votre course de 10 degrés sud. Et alors il lui dit « je suis le capitaine ». Il inclut ça dans le message. Changez votre course de 10 degrés sud, moi je suis le capitaine. Et l'autre il répond « changez votre course de 10 degrés nord, je suis le marin 3e classe Jones ». Alors le capitaine, il est en fureur, il n'en peut plus, il est en colère, mais c'est pas possible. C'est moi le chef à bord, c'est moi qui décide. Et s'il se pousse pas, il va se faire écraser. Changez votre cours, 10 degrés sud, je suis un cuirassé. Là, il en impose, j'ai un gros bateau, si tu te pousses pas, je t'écrase, en gros. Et puis, il reçoit cette réponse. Et là, il y a tout qui change. Changez votre course, 10 degrés nord, je suis un phare. Parce qu'en fait, le bateau est en train de foncer vers un phare. Et souvent, on est dans un monde qui est dans ces ténèbres, dans cette obscurité, dans cette tempête. Et il y a plein de voix qui sont là, qui nous disent de faire ceci ou cela. Et la seule voix qu'il faut écouter, qui est véritablement celle qu'il faut écouter pour être sauvé, c'est celle de la lumière du monde, Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Mais il aura cette lumière-là qui va pouvoir lui permettre de marcher dans la volonté de Dieu. Et Jonas ne s'est pas rendu compte que quand il a perdu cette perception, il a mis en danger toutes sortes de personnes. Et souvent, quand on pêche, quand on fait le mal, quand on désobéit à Dieu, on ne se rend pas compte, mais on met en danger aussi les personnes autour de nous. On peut contribuer à ce qu'il leur arrive un malheur, non pas de manière superstitieuse, mais parce qu'en ne faisant pas la volonté de Dieu, en n'ayant pas son approbation, eh bien, ça, c'est quelque chose qui contamine les autres. Sauf si les gens sont au Seigneur, bien sûr. Là, ils ne craignent rien. Mais quand ils ne sont pas au Seigneur, est-ce que quelqu'un qui ne prie pas pour ses enfants, il va avoir l'assurance que ses enfants vont être gardés de toute chose? Vous comprenez? Quand on n'a pas cette communion avec Dieu, on n'a pas cette assurance que Dieu nous garde, nous protège. On n'a pas cette assurance que Jésus est avec nous tous les jours. Et quand on est au Seigneur, on est heureux parce qu'on sait que si je voyage, le Seigneur il a promis qu'il gardera ton départ et ton arrivée. Et je peux prier avec foi en disant, Seigneur, tu vois, je dois faire tel voyage. Tout à l'heure, on avait un jeune garçon, un jeune homme du groupe de jeunesse qui est retourné à Paris. Et il a pris l'avion et il a cette confiance que sa vie est entre les mains de Dieu. Que même si le Seigneur permet que l'avion s'écrase, bon, alors, c'est pas lui qui va le vouloir, hein, mais si ça arrivait, il sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Mais en tout cas, il peut prier, Seigneur, garde mon départ, garde mon arrivée. Et je crois qu'il a pas prié pour que l'avion s'écrase, hein. C'est pas ce que je dis. Mais je crois qu'il a pu prier avec foi. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Est-ce qu'on n'est pas heureux d'avoir un Seigneur qui peut nous exaucer? En tout cas, Jésus, il a dit quelque chose. Au jour du jugement, les habitants de Ninive vont se lever à côté des pharisiens et des scribes et ils vont leur dire, nous on a cru en Jonas, nous on a cru en son message. On a cru dans tout ce qu'il nous a raconté, on s'est repenti. Et vous, les pharisiens et les scribes, alors que vous aviez Jésus qui est quand même, on l'a vu, beaucoup plus grand que Jonas, et on pourrait en rajouter des quantités d'arguments pour vous montrer que Jésus est plus grand que Jonas, vous ne vous êtes pas convertis. Est-ce que ce soir, nous allons prendre le chemin des Ninivites ou des pharisiens? De qui allons-nous prendre le chemin? Parce qu'il est clair, et Jésus l'a rappelé, il est clair que tous les hommes, un jour, seront jugés. Ils seront jugés en fonction de ce qu'ils auront décidé par rapport à Jésus. Ils ne seront pas jugés en fonction de leurs efforts, pas jugés en fonction de leur intelligence, pas jugés en fonction de leur métier, pas jugés en fonction de leur religion. Ils seront jugés en fonction de leur foi en Jésus ou pas. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire, j'ai la foi en Jésus? J'ai la foi dans la seule personne qui peut me délivrer de la tempête. J'ai la foi que dans ce miracle incroyable de la mort et de la résurrection de Jésus. Oui, Jésus est mort. Oui, Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Mais Jésus est ressuscité. Et Jésus, maintenant, il est dans le ciel. Et il intercède pour nous. Et Jésus, il revient bientôt nous chercher, à nous tous qui sommes réconciliés avec lui. Alors ce soir, est-ce que nous allons croire en lui? Est-ce que nous allons croire à celui qui peut nous donner sa paix divine? Est-ce que nous allons croire à celui qui peut nous délivrer de n'importe quelle tempête, qui peut guérir n'importe quelle maladie, qui peut débloquer n'importe quelle situation qui paraît impossible aux hommes, qui peut faire de chacun d'entre nous une source d'amour, de paix, de joie, de douceur, etc. et de faire de chacun d'entre nous des bénédictions? Est-ce que nous allons croire en lui ou est-ce que nous allons rester dans notre péché? Ça, c'est la question que nous devons répondre. En tout cas, si nous voulons être libérés de notre péché, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de venir à Jésus et de venir de toute notre force, avec tout notre cœur. Il n'est pas question de déployer des mouvements physiques incroyables, de crier à haute voix, c'est question surtout d'une attitude de cœur. On l'a lu, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Est-ce que vous voulez crier à l'Éternel ce soir? Est-ce que vous voulez faire monter ce cri du cœur vers l'Éternel? Seigneur, tu vois ma situation, tu connais, Seigneur, tel ou tel problème, tu connais la tempête que je traverse, tu connais la maladie que j'ai. Seigneur, je crois que tu es capable de faire quelque chose pour moi. Parce que tu es bien plus grand que Jonas, tu es bien plus grand que n'importe quel homme, tu es un homme, mais tu es le Fils de Dieu surtout. Alors c'est pour ça que je veux me confier en toi ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Éternel, merci pour ta parole, merci pour le miracle de Jonas, merci parce que c'était la seule chose que les pharisiens avaient besoin d'entendre et nous croyons ce soir que pour nous qui avons été pécheurs ou nous qui sommes pécheurs, nous avons besoin d'entendre encore ce miracle-là, le miracle de ta mort, de ta résurrection, le miracle du fait que le Fils de Dieu soit allé jusqu'à la croix à cause de notre péché. Seigneur, dans ces moments, tu connais les cœurs, tu connais les situations, tu connais les vies. Toi qui connais, qui sondes le cœur et les reins de chaque homme, Seigneur, je te demande dans ces instants de parler par ton esprit. Tu vois ceux qui n'ont pas la paix, tu vois ceux qui ne ressentent pas ton approbation, ceux qui ignorent même ce que c'est. Je te demande, Seigneur, de leur montrer que c'est en se confiant en toi qu'ils peuvent trouver l'approbation, qu'ils peuvent trouver la paix, le repos de leur âme. Tu vois ceux qui sont harcelés par leur conscience pour telle ou telle chose qu'ils ont faite. Seigneur, toi seul es capable de purifier la conscience. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, toi tu peux le faire, Seigneur, parce que tu as laissé ton sang couler pour notre péché. Seigneur, dans cette soirée, tu es capable de transformer un homme qui a fait du tort à des autres, un homme qui a fait du mal aux autres. Tu es capable d'en faire une personne qui va être une bénédiction. Tu es capable de transformer quelqu'un qui avait la haine en quelqu'un qui a fait un message de grâce. Seigneur, nous croyons que tu es capable de faire ces choses encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons nous confier en toi. Oui, nous croyons que tu es le Dieu qui a créé la terre et le ciel. Nous croyons que tu n'es pas surpris par les épreuves. Nous croyons que tu n'es pas terrifié par les tempêtes. Mais nous croyons que tu es le seul qui est capable de nous en délivrer. Alors Seigneur, nous voulons nous confier en toi ce soir. Tu vois les cœurs qui sont là, tu vois les besoins qui sont aussi présents dans les cœurs, Seigneur. Eh bien, je te demande par ta grâce de répondre à ces cris qui montent vers toi dans ces moments, à répondre à ces prières qui montent vers toi. Tu connais toutes ces choses, Seigneur, et nous voulons, dans ces moments, regarder à toi comme nous l'avons chanté. Nous voulons fixer nos regards sur toi et rayonner de ta joie. Oui, c'est vrai que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Nous l'avons expérimenté et nous croyons qu'encore ce soir, quelqu'un peut l'expérimenter. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Tu vois les détresses de ceux qui sont là ce soir, Seigneur. Je te demande de les en délivrer afin qu'ils puissent expérimenter ta grâce, qu'ils puissent placer leur confiance en toi et être délivrés de toutes leurs angoisses éternelles. Amen.